إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، على شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد النرسلان حفظه الله تعالى. والحمد لله سبحانه وتعالى، ما زلنا في باب سخاوة النفس. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. فهذا الحديث في صحيحين وهو صحيح. وكلمة أف اسم فعل بمعنى أتضجر، وأصل أف وتف لوسخ الظفر، وتستعمل هذه الكلمة لبداية التضجر من كل ما يستقذر، من كل ما يستقذر. دونك poursuit بإذن الله عز وجل l'étude du livre الأدب المفرد de l'imam البخاري رحمه الله تعالى. Et nous sommes toujours dans le chapitre numéro 136 intitulé La générosité de l'âme ou de la personne. طيب نعم. Donc, dans le hadith ici, numéro 277, il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Sulayman ibn Harb nous a rapporté et a dit, Hammad ibn Zayd nous a rapporté, ainsi que Sulayman ibn al-Mughira, selon Thabit, selon Anas, radiyallahu anhu, et a dit, j'ai servi, j'étais au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant 10 années. Et pas une seule fois, il n'a dit ouf. Pas une seule fois, il ne m'a dit pourquoi n'as-tu pas fait ceci si je n'avais pas fait telle ou telle chose. Et pas une seule fois non plus, lorsque je faisais une chose, il ne m'a dit pourquoi l'as-tu faite. D'ailleurs, donc le hadith, on le retrouve également dans les deux sahih et il est authentique, bihamdillah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les vocabulaires de ce hadith, on a ouf, d'accord? Donc, ouf, c'est un nom ici qui va exprimer une action. Donc, ouf aura le sens ici de atadadjar. Yani, j'en ai marre. Ça va exprimer le fait que la personne, yani, on a marre, d'accord? Il va montrer, va exprimer son exaspération. Taïeb, il dit le Cheikh, fidhahullah ta'ala, que l'origine de ce mot, ouf, ça vient de touf. Donc, touf, c'est la saleté que l'on a sous les ongles, d'accord? Et donc, c'est un terme également, ouf ou touf, qui va être utilisé pour exprimer également justement cette exaspération vis-à-vis d'une chose qui ne nous plaît pas, d'accord? Ou qui nous exaspère, na'am, ou qui pourrait nous faire fuir. طيب. فما يؤخذ من هذا الحديث أولا بيان كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. On tire de ce hadith premièrement la démonstration du comportement complet et parfait du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. ثانيا بيان حسن عشرته وسماحة قلبه. Deuxièmement, on voit également les liens sociaux, les rapports sociaux excellents qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres, ainsi que la grande indulgence de son cœur. ثالثا ترك العتاب على ما فات وتنزيه اللسان عن الزجر والذم لأن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها سرعان ما تعود إلى أعشاشها فإذا لمته فإنه يرجع باللوم عليك وإذا ما حملت عليه فإنه لن يسلم لك وحينئذ تنفتح أبواب الشر على مصارعها لذلك ترك العتاب صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, on voit que النبي صلى الله عليه وسلم était éloigné de faire des réprimandes pour ce qui n'a pas été fait. Et sa langue était également dénuée de tout reproche et de tout blâme envers les autres. Il dit le shaykh, car le blâme est semblable aux oiseaux qui sont proches de leur nid. Aux oiseaux qui sont proches de leur nid. Vous voyez ? Et donc les oiseaux ne sont jamais loin de leur nid et ils reviennent rapidement à leur nid. Eh bien, le blâme ou la réprimande également, lorsque tu blâmes quelqu'un, eh bien, ce blâme, en général, le plus souvent, te revient sur toi et de manière rapide également, voire systématique. Voyez ? Donc, lorsque tu vas blâmer quelqu'un ou tu vas critiquer quelqu'un, en général, tu n'es pas à l'abri que ce blâme te soit retourné par la suite. Et ainsi donc, il dit le cheikh, cela va ouvrir les portes du mal. Et c'est la raison pour laquelle donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était éloigné et délaissé le fait de blâmer les autres ou de les réprimander. Rabi'an, adamu tasamuhi fil umur il wajibati shara'an. لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذن هذه الأمور التي لم يراجع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت مما ما لم يتعلق بما هو واجب شرعا وإنما ما يخص أمور الخدمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك ولا يلتفت إليه. Et enfin, quatrièmement, cela ne veut pas dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prescrivait pas le bien et ne proscrivait pas le mal. D'accord ? Donc là, nous ne parlons pas des choses obligatoires qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposées religieusement. Car envers ces choses-là, bien sûr, il n'y avait pas de tolérance possible. D'accord ? Il n'y avait pas de tolérance possible. On ne peut pas fermer les yeux sur les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdites. D'accord ? Car cela, encore une fois, entre dans ce qu'on appelle la prescription du bien et la proscription du mal, chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné. Par conséquent, ces choses-là, pour lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fermait les yeux, ne concernait pas les choses obligatoires religieusement. Mais cela ne concernait yani, que les choses concernant notamment ici les travaux qu'on faisait donc au service de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ici Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Et donc, par rapport aux travaux, aux services qu'on rendait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète avait l'habitude de fermer les yeux sur les erreurs qu'il pouvait y avoir et ne portait pas d'attention aux choses qu'on pouvait lui faire ou ne pas lui faire, et ne montrait jamais, comme il dit ici Anas, radiallahu anhu, d'exaspération, taïeb, par rapport à ce qu'on lui faisait. Wallahu ta'ala a'lam. C'est bon? طيب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعد وأنجز له إن كان عنده وقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير وهو حديث حسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا بالأخلاق الفاضلة الكاملة المثالية. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 278. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Ibn Abi al-Aswad nous a rapporté et a dit, Abd al-Malik ibn Amr nous a rapporté et a dit, Sahamatu ibn Abd al-Rahman al-Asam nous a rapporté et a dit, j'ai entendu Anas ibn Malik radiallahu anhu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très bienveillant. Il n'y avait personne qui venait à lui sans que il ne réponde à son appel et lui donner ce qu'il demandait si il le pouvait. Yani s'il avait ce qu'on lui demandait. Et la prière, yani, fut annoncée. C'est-à-dire que l'iqama, iqamat salah, a été fait. Lorsque un bédouin vint à lui, et l'attrapa par son vêtement, et par le vêtement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, j'ai encore besoin d'une petite quantité de ce que je t'ai demandé, et j'ai peur de l'oublier. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de partir avec lui, et de lui donner ce dont il avait besoin, puis il revint et dirigea la prière, avec les, ou pour les croyants. Donc le hadith, il est rapporté également par l'imam, rahimahullah, dans le Tariq al-Kabir. Et c'est un hadith qui est hasan, alhamdoulilah, qui est hasan, donc qui est bon. Le messager d'Allah, alayhi salatu salam, donc on voit ici qu'il était bien sûr doté et paré des comportements très nobles, parfaits et exemplaires. Wa kana la ya'tihi ahadun. إلا وعد وأنجز له إن كان عنده أي أحضره وقضاه له وجاءه عربي فأخذ بثوبه أي بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, encore une fois, il a été rapporté par Anas que lorsque quelqu'un venait, eh bien, le prophète صلى الله عليه وسلم l'écoutait et lorsqu'il pouvait, donc, il donnait ce dont la personne avait besoin. Et également, la parole ici d'Anas, un bédouin vint le voir et l'attrapa par le vêtement, et le vêtement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ma yakhadu min hadith, min hadha al-hadith, awalan al-hadhu ala rifqi bil-jahil. Nous tirons de ce hadith, premièrement, l'encouragement à faire preuve de tolérance et de douceur envers l'ignorant. Envers l'ignorant. Thaniyan, adam al-sukhti min fi'l al-jahil. Deuxièmement, nous tirons de ce hadith le fait de ne pas se mettre en colère à cause, justement, d'un ignorant. À cause de ce qu'un ignorant pourrait te faire. D'accord? On voit ici donc l'exemple que l'on doit suivre, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas se mettre en colère envers l'acte qu'un ignorant pourrait te faire. ثالثا جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام إذا كان لحاجة. في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال وقمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى وكان ذلك في صلاة العشاء كما في رواية لمسلم. Troisièmement, dans ce hadith, la permission qu'il y ait un délai entre l'iqama et le takbirat al-ihram, yani le takbir, Allahu Akbar, d'entrer en prière. S'il y a une nécessité ou un besoin à ce qu'il y ait donc une courte période d'attente entre l'iqama et le takbirat al-ihram. Et on a également dans les deux sahih, dans la version de Anas, radiallahu anhu, qui a dit l'iqama de la prière a été fait lorsque un homme était en train donc de s'entretenir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les deux ne cessaient de parler jusqu'à ce que ses compagnons s'endormirent. D'accord? Et puis lorsque le prophète eut terminé de discuter avec cet homme-là, il vint et il dirigea la prière, et ceci était la prière de l'Isha. D'accord? Comme on peut le voir dans une narration de l'imam Muslim. Donc ça, c'est la preuve qu'il est permis, lorsque besoin en est, eh bien, de laisser un délai entre l'iqama et takbirat al-ihram. Rabi'an, رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et quatrièmement, on voit dans ce hadith, bien sûr, la grande miséricorde du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, comme il l'a dit Allah جل وعلا, en le décrivant, et c'était quelqu'un de très bienveillant, très bienfaisant envers les croyants. نعم. واضح, c'est bon. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. الحديث في صحيحين. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 279. Il dit l'imam, rahimahullah, Qabisa nous a rapporté et a dit, Sufyan al-Thawri, nous a rapporté selon Ibn al-Munkadir, selon Jabir, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas sollicité pour quelque chose et il n'a jamais dit non. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non lorsque on le sollicitait pour quelque chose ou lorsqu'on lui demandait quelque chose, dans le sens du hadith. Donc le hadith, on le retrouve dans les deux authentiques également. ثم قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا وأجابه ما قال لا قط إلا في تشهدي لولا تشهد كانت لاؤه نعم. طيب, comme il a dit le poète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non lorsqu'on lui demandait quelque chose. Il a toujours répondu favorablement à la demande. Bien sûr, à condition que ce soit quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit. Tayyib, comme il dit le poète, ma qala la, il n'a jamais dit non sauf dans son tashahhud. Sauf dans son tashahhud. Le tashahhud, bien sûr, on a le terme la dans ashhadu an la ilaha illallah. D'accord? Donc, il dit que, excepté cela qu'il disait dans le tashahhud, le prophète ne disait jamais non. Et s'il n'y avait le tashahhud, eh bien, cela serait également un na'am, un oui. Na'khudhu min al-hadith bayanun أو بيانا لعظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه وسلم، إذ ما كان ينطق بالرد إن كان عنده أعطى وإلا اعتذر بالأسلوب المناسب. Nous tirons de ce hadith l'exposé de la grande hospitalité et générosité d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que il ne refusait jamais et ne rejetait jamais une demande, de sorte à ce que lorsqu'il avait ce dont la personne avait besoin, eh bien, il donnait, et s'il n'avait pas, eh bien, il s'excusait avec de bonnes paroles et de bonnes expressions. فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب سخاوة النفس أولها ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالنفس المرء وحقيقة قلبه وضميره، وأنه إذا كان هنالك مذخور في قلبه من الفضائل فإنه قد أعظم الله له العطية، والناس لا يذكرون ذلك في عد ما عندهم. فإذا آتى الله تعالى الإنسان خلقا حسنا وسجية مستقيمة فهذا لا يقادر قدره بمال ولا عرض كما بينا صلى الله عليه وسلم. Puis dit le Cheikh Raslan fi dhillah ta'ala, donc ces hadiths qui ont été évoqués par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le chapitre de la générosité de l'âme. Donc on a vu le premier hadith, le hadith numéro 276, qui a été rapporté par Abu Huraira, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La richesse, yani la véritable richesse, ce n'est pas l'abondance de matériel, mais la véritable richesse, c'est la richesse de l'âme. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé dans ce hadith cette question grandiose qui est relative à l'âme de la personne, à l'ego de la personne, d'accord, et à la réalité de son cœur et de sa conscience, et qui est que s'il y avait quelque part un stock dans son cœur, un stock dans son cœur de mérite et de bienfaits, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala aurait a certes rendu ce stock de bienfaits énorme dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, taïeb, ne considèrent pas cela par rapport à ce qu'ils possèdent. Donc lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a donné à la personne un bon comportement et une moralité exemplaire et une conduite droite, eh bien, il dit le cheikh que cela, en vérité, n'a pas d'égal au niveau des biens matériels de ce bas monde, comme l'a exposé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, les fortunes, les richesses de ce bas monde, l'or, l'argent, le matériel, les maisons, toutes ces choses-là, en vérité, n'ont pas d'équivalent si la personne possède des comportements nobles, honorables, éminents, ceux qu'Allah tabarak wa ta'ala aime et agrée. فَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى باب سَخَاوَةُ النَّفْسِ أَيْ جُودُهَا وَكَرَمُهَا سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ تركته ولم تتشبث به فالترك هنا الجود والسخاء، والسخاء بمعنى الجود وهو بذل ما يقتنى بغير عوض. Donc le chapitre intitulé chapitre la générosité de l'âme, d'accord, donc sakhawatu c'est l'hospitalité, la générosité. Donc on dit « sakhat nafsuhu » dans le verbe « sakha »« sakhat nafsuhu anishay » c'est-à-dire la personne a délaissé la chose, il ne s'y est pas accroché. Elle n'est pas accrochée, elle n'est pas vorace de cette chose-là. Donc, le délaissement ici, il a le sens de la générosité, de l'hospitalité, d'accord, envers les autres. C'est-à-dire le fait de donner, le fait de dépenser ce qui nous appartient sans attendre quelque chose en retour. D'accord? C'est ça, el-jud, aw-sakha, le fait de donner quelque chose qui nous appartient, que nous avons acquis, d'accord, sans attendre quelque chose en retour. وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض عن هنا سببية أي ليس الغنى بسبب كثرة المال والمتاع. Donc, lorsqu'il dit ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vraie richesse ne se trouve pas dans la profusion de matériel, de biens matériels. D'accord? Donc le an ici, ليس الغنى عن كثرة الغرض. Le an ici, il exprime السببية. Il exprime la cause. D'accord? C'est-à-dire que la vraie richesse n'est pas le résultat d'une abondance de biens matériels et des choses de ce bas monde. طيب, فالعرض بتحريك متاع الدنيا وحطامها. Donc, العرض, avec la fatha sur le ra, العرض, eh bien, ça représente les biens matériels de ce bas monde ainsi que les débris de ce bas monde. العرض والعرض والعرض كل ذلك له معنى. Donc en arabe on a العرض avec la fetha sur le ra, on a aussi العرض avec le sukun sur le ra et la kasra yani sur le عين, il y en a aussi العرض, d'accord, avec le sukun sur le ra. Et chacun de ces termes yani ont un sens particulier. Fa العرض بالسكون كل ما كان من المال غير النقد وجمعه عروض وأما العرض بالفتح فمال يصيبه الإنسان من حظه في الدنيا. طيب donc on a العرض notamment avec le sukun sur le ra, d'accord, qui va désigner tout bien matériel excepté la monnaie, excepté la monnaie. Donc c'est bien matériel en dehors tout ce qui est monétaire, etc., on appelle en arabe cela al-ard, avec un soukoun sur ra. Et son pluriel c'est urud. Donc on entre dedans les marchandises, etc. Amma al-ard, alors que al-ard avec la fatha sur le ra, eh bien c'est les biens qui vont être acquis par la personne, taïeb, et qui vont la toucher parmi ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a décrété dans ce bas monde. قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Dans le sens Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Anfal, vous voulez les biens matériels de ce bas monde et Allah veut pour vous l'au-delà. Alors qu'Allah veut pour vous l'au-delà. Na'am. واضح؟ سي بون؟ سي كلير؟ الحمد لله. دوكا فا ساغيتي لا بوغ اجوردي. بارك الله فيكم. والعلم عند الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.